La France bouge, c'est jusqu'à 14h cet après-midi en direct du Salon des Entrepreneurs Porte-Maillot à Paris et c'est le moment, Raphaël, de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Vous avez besoin de faire des travaux, vous ne savez pas toujours à qui faire confiance, eh bien il existe une solution, elle s'appelle EMEA. Elisabeth, c'est notre solution du jour.
Exactement, la maison est au centre d'EMEA, EMEA, H-E-M-E-A. C'est une plateforme en ligne qui est garantie et qui simplifie les travaux de rénovation. EMEA, c'est en quelque sorte le tiers de confiance qui nous manque tous quand on se pose des questions, quand on fait des travaux. Ai-je raison de mettre telle ou telle prise à tel endroit? Est-ce que je dois casser un mur? Quelle couleur? Toutes ces questions sur l'avancée du chantier, EMEA peut nous accompagner. D'ailleurs, l'entreprise accompagne surtout les particuliers parce qu'une personne sur deux qui réalise des travaux est insatisfaite. Donc comment vous faites? Eh bien, vous contactez via le site internet d'EMEA, on vous envoie un expert qui va donc analyser vos besoins, il va faire des plans, un cahier des charges, et c'est sur cette base qu'EMEA va solliciter des entreprises triées, de qualité, pour vous proposer des devis. Bonjour Mathieu Burin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes le cofondateur d'EMEA. Alors, elle est née comment cette aventure? Vous avez fait des travaux et vous êtes retrouvé sans conseil?
Alors en fait, ça va même plus loin. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec mes grands-parents qui ont été d'une ferme. Et en fait, on voulait faire des travaux. Et donc moi, j'ai vu tous les bons côtés de créer son habitat, du bien-être et du confort. Et tous les mauvais côtés, le devis, on ne sait pas trop avec qui s'adresser. Ça va du simple au triple, aucune explication. En fait, le constat, c'est que les travaux, c'est un des rares secteurs qui n'a pas évolué depuis l'après-guerre. En fait, c'était ça le constat. Et on se dit, OK, il y a quelque chose à faire. Si on veut vraiment accompagner le particulier pour que ça se passe bien, pour qu'il y ait un vrai niveau de satisfaction, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a un Français sur deux qui n'est pas satisfait. Nous, on a plus de 95% qui sont satisfaits et on tend vers toujours mieux.
Vers le 100%.
Ben, on veut. Donc, on est loin de parfait, mais on tend à s'améliorer. Et le but, c'est de se dire, OK, il y a forcément quelque chose à faire et côté particulier, parce qu'il y a vraiment un besoin de réassurance, un besoin d'accompagnement, de sécurité, mais aussi côté entrepreneur. Puisqu'il n'y a aucun outil pour qu'il soit plus productif, pour qu'il gagne plus d'argent, avec plus de marge. Donc c'est vraiment un enjeu de dire comment je crée de la valeur pour le particulier et pour l'entrepreneur. Voilà, c'est ça vraiment notre mission.
Alors comment vous créez cette valeur justement? C'est parce que vous triez des entrepreneurs de qualité? Comment vous faites?
Alors, il y a plein de choses, c'est vraiment du sur-mesure, donc c'est en fonction de votre projet. Si vous allez avoir besoin d'un architecte ou d'un entrepreneur pour faire un permis de construire ou une autorisation préalable, donc ça on va vous aider. Donc vous êtes sur la partie conception, après on vous aide sur la partie trouver les bonnes entreprises qui sont bien assurées, qui sont sur mesure sur votre besoin. En général, le constat c'est on va prendre l'entreprise qui est recommandée par le cousin de la grand-mère.
Et il faut pas?
C'est juste, en fait, c'est pas forcément hyper adapté.
Pour nous? Pour le cas particulier?
Typiquement, est-ce que vous avez les mêmes goûts de votre grand-mère ou votre copain qui habite au même endroit?
C'est très juste.
Donc c'est très... En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de sur-mesure parce qu'il y a un manque d'opacité. Il y a un gros manque d'opacité et surtout de confiance. Donc aujourd'hui, la seule confiance, c'est de dire je préfère faire confiance à la recommandation qui, en général, en fait, est plus chère que les prix normaux du marché. Et vous n'avez pas tant de garanties de service que ça.
Ça fait 5 ans que vous existez, déjà près d'une quarantaine de salariés. Bravo déjà. Et vous êtes présent partout en France?
Alors, on est présent en région parisienne, en région lyonnaise et en région bordelaise. Et là, on a levé un petit peu d'argent l'année dernière pour pouvoir accélérer et augmenter la couverture géographique. Donc, on sera présent dans les 10-15 plus grandes villes de France dans les 18-24 prochains mois.
Notre coach Fabrice Marcella, dirigeant du village Baïssé à Paris. Alors, on ne vous entend pas, Fabrice, je ne sais pas ce qui se passe, mais...
Allô,
ça y est, voilà. C'est revenu, vous êtes revenu.
La question que je souhaitais vous poser à Mathieu, c'est comment on fait quand on grandit aussi rapidement pour diffuser finalement cette culture d'entreprise, l'ADN, votre raison d'être, qui vise justement à accroître la satisfaction de vos clients, accompagner aussi vos entrepreneurs et faire en sorte que voilà, ces travaux qui sont souvent anxiogènes, en tout cas, puissent diminuer.
Alors c'est une très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas forcément de bonne réponse, mais en tout cas ce que nous on a fait, c'était on a posé sur le papier c'est quoi notre mission, c'est quoi nos valeurs et c'est quoi les gens que l'on veut être capable d'amener chez nous. Donc notre vision et notre vision chez EMEA, c'est de dire on veut que tout le monde soit capable de se concentrer sur l'essentiel. Donc se concentrer sur l'essentiel, c'est le particulier, être capable d'apprécier son lieu de vie, être bien chez soi. L'essentiel pour l'entrepreneur, c'est de faire des travaux. C'est pas de faire de la paperasse, c'est pas de gérer la TVA.
Et vous respectez les délais parce que le vrai souci dans les travaux, c'est quand même quand est-ce que ça se termine.
Ouais. Et bah, c'est une super transition. Donc, chez EMEA, du coup, en tant que rôle de tiers de confiance, on a créé un contrat sécurisé. Donc, vous avez une date de début, vous avez une date de fin, et en fait, vous avez des pénalités de retard qui sont automatiquement incluses si le chantier dépasse. Donc, ça, c'est une des garanties. On en a une deuxième qui est encore plus formidable, et on est les seuls à le proposer en France. C'est on a une garantie qui a été créée avec AXA France, qui permet de garantir les travaux jusqu'à 500 000 euros.
Wow.
En fait, en passant par EMEA, vous êtes garanti que vos chantiers ils se livrent. Aujourd'hui, vous n'avez pas de garantie sur le marché qui permet de garantir ça. Vous avez uniquement la décennale qui va intervenir en fait après la livraison de chantier. Donc nous, on est rentré en amont en disant, en fait, on a les bons entrepreneurs, on a le bon suivi, on a le bon garanti.
Le timing sera respecté.
Et en tout cas, on met tout pour y arriver.
Pourquoi est-ce que vous avez changé de nom? Parce que EMEA, on ne pense pas forcément travaux ou rénovation.
Du tout même.
Alors c'était vraiment, donc avant pour ceux qui nous écoutent, ça s'appelait Travolibre.
Oui.
Travolibre c'était quelque chose de très, c'était orange avec une maison
tout
qui souriait.
Comprenait.
C'était un peu l'historique de moi je suis ingénieur de travaux.
J'ai mais on comprenait tout de suite qu'il y avait des travaux.
Exactement.
Derrière.
Et en fait on ne veut pas se limiter à uniquement la partie travaux, on veut être capable d'intégrer la partie conception, la partie, on veut devenir la boîte à outils des entrepreneurs et des particuliers qui veulent faire leurs travaux.
Et EMEA ça a une signification particulière?
Absolument pas, en fait il y a un jeu de mots avec home.
Pour que donc... ce soit, qu'on puisse le retenir partout dans le monde.
Bah, déjà, en tout cas, en France, dans un premier temps, en Europe après, on va faire les étapes par étapes. Mais oui, le but, c'est d'être capable de s'internationaliser. On était dans le métro, on avait fait plusieurs communications à droite à gauche. Et donc, le but, c'est de dire on ancre une marque forte et quitte à avoir un changement de nom, autant le faire le plus tôt possible que plus tard.
Quelle est la demande qui revient le plus souvent de la part des particuliers quand ils souhaitent faire des travaux? Qu'est-ce que vous trouvez le plus souvent?
Alors nous, on est spécialisé sur des gros travaux, donc plutôt de rénovation immobilière.
Mmh, oui.
Donc ça va être rénovation complète sur des appartements avec des goûts plus ou moins loufoques.
C'est quoi le montant moyen d'ailleurs des travaux?
On est entre 35 et 45 000 euros, donc moyen. Mais en fait, si on fait la médiane, on a des chantiers qui sont de 10 à 15 000 euros et on va jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire 1 million.
Fabrice?
Oui, et l'autre question, c'est, vous avez levé des fonds il y a peu de temps.
Oui.
Ils sont destinés à quoi? Accompagner votre croissance en France, à l'international?
Oui, alors ils sont destinés déjà à structurer l'équipe et à grossir sur les différentes localités. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tous les...
Vous avez des équipes localement à chaque fois, c'est ça?
On a des bureaux, à Paris, on a des bureaux à Lyon. Là, on ouvre des bureaux à Bordeaux. Et le but, c'est qu'on ait une présence locale qui permet en fait de créer du lien et de rencontrer les entrepreneurs et les particuliers. Donc ça, c'est la première brique. Et la deuxième brique, c'est vraiment accélérer encore plus fort sur toute la partie service, donc sur du suivi de chantier en ligne, des logiciels de devis facturation qui va beaucoup plus vite, intégrer toute une intelligence sur les aides qui sont disponibles pour la rénovation énergétique et écologique. Et le but, c'est de dire, je suis la personne à aller voir et qui s'occupe de moi, qui me prend par la main de A à Z, ça se passe bien et j'ai envie de recommander.
Je vois très bien l'intérêt pour les particuliers. L'intérêt pour les entrepreneurs, c'est quoi? Vous leur prenez une commission, j'imagine?
Alors, on a un modèle, de service qui est sur de l'abonnement. Donc, on a un abonnement qui permet d'inclure de l'apport d'affaires, du temps gagné, parce qu'il y a des outils qui sont...
Pour l'entrepreneur.
Exactement. Donc, vous avez du logiciel de devis de facturation, on va avoir du planning de chantier. On a toutes les aides sur la partie légale et administrative qui sont gérées par EMEA. Donc, ça, c'est la deuxième brique. Et la troisième brique, c'est en fait, comme on a du volume, on est capable de créer un club pro. Donc, c'est une coopérative. Et en fait, le principe, c'est quand vous avez 10 mètres carrés de parquet, quand vous avez 10 millions de mètres carrés ou quand vous avez 10 milliards de mètres carrés, c'est évident qu'en fait vous êtes capable d'avoir accès à des matériels de meilleure qualité pour le même prix. Donc le particulier qui passe par EMEA, il a un prix de qualité, mais avec du prix pro. L'entrepreneur, il a accès à de la marge et en fait du matériel de meilleure qualité. Et nous, du coup, on est au centre, donc on crée de la valeur pour toutes les parties prenantes de la plateforme.
Ça s'appelle EMEA, c'est la solution aujourd'hui sur Europe 1.
Merci.
Il est midi 59.
Europe 1.
Restez avec nous, ici Porte Maillot au Palais des Congrès pour la 27e édition du Salon des Entrepreneurs où le monde change, où la France bouge et où l'éthique est cette année un des fers de lance. A tout de suite.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge, si vous nous rejoignez à l'instant. Aujourd'hui, nous avons quitté les studios d'Europe 1 pour aller écouter La France bouger au Salon des Entrepreneurs. Ici, vous pouvez participer à des expériences immersives, rencontrer des experts. Ils sont plus de 2500 à s'être donné rendez-vous sur le salon. Un salon qui se veut engagé. C'est pour ça que nous avons choisi tout simplement de vous parler aujourd'hui éthique au travail. Bonjour Maxime Baffert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez créé une plateforme de vente de fournitures et de mobilier éco-responsable pour les entreprises. Et alors tout ça part évidemment d'un constat que vous avez réalisé dans votre précédent poste où vous avez dû gérer, je crois, 5 déménagements. Et à chaque fois, se poser la même question, à savoir celle du réemploi du matériel.
Absolument. Et en fait, en creusant cet aspect, on se rend compte que très régulièrement, les entreprises, quand elles déménagent, eh bien, jettent tous leurs meubles. Et y compris les plus grandes entreprises, par exemple, quand elles quittent une tour à la Défense, elles vont jeter la totalité du mobilier. En tout, vous avez pratiquement 250 000 tonnes de mobilier qui sont jetées chaque année.
250 000 tonnes.
Exactement. Ouais.
Ça fait, je crois, 5 milliards de dépenses de fournitures par an pour les entreprises.
Oui, c'est beaucoup. Et en réalité, on s'aperçoit que ce qui est jeté, en général, est mis en décharge ou incinéré. Dans la plupart des cas, il y a très peu de réemploi. Et donc, on s'est dit, finalement, c'est du mobilier de bureau qui est de très bonne qualité, souvent, qui pourrait intéresser d'autres entreprises. Et en plus, avec une compétitivité au niveau du prix. Et c'est la raison pour laquelle on a créé Blue Digo.
Donc l'idée de Blue Digo naît par finalement cette déception de devoir jeter dans vos postes précédents les meubles. Et vous vous posez aussi une autre question en même temps, c'est comment on devient plus vertueux ?
C'est ça, en fait, la question. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent être plus écologiques, plus éco-responsables. Elles ont la pression de leurs clients, elles ont la pression de leurs salariés aussi pour aller dans cette direction. Mm-hmm. Et souvent, elles ne savent pas forcément par où commencer et comment faire. Et donc, nous, on s'est dit, finalement, les fournitures, le mobilier, c'est les dépenses qui sont importantes, pas forcément stratégiques. Et donc, c'est un bon moyen, finalement, cette consommation responsable, de démarrer une démarche vers une transition écologique.
Alors, l'idée, elle naît en 2018, c'est ça ? 2018-2019. Et le site, lui, est en ligne depuis l'année dernière ?
Donc, le site est en ligne depuis octobre 2019.
Alors, qu'est-ce qu'on y trouve sur ce site ?
Sur le site, vous allez y trouver d'abord beaucoup de mobilier de bureau, des choses à la fois très basiques, des tables, des chaises, mais aussi vous allez trouver des canapés, des choses pour créer des espaces détente. Et puis, vous allez trouver aussi des gourdes, des lunchbox pour éviter d'utiliser du plastique et de jeter du plastique au bureau. On va aussi privilégier des fournitures qui sont made in France. 70% de nos fournitures sont made in France. Voilà, l'idée, c'est vraiment que chacun des produits ait le moins d'impact possible, voire un impact positif pour l'environnement.
Mais comment est-ce que vous faites pour récupérer ? Vous allez voir les entreprises, vous les démarchez, vous leur dites, au lieu de jeter, donnez-moi votre matériel, ou est-ce que vous le rachetez ?
Alors, en fait, on va voir les entreprises, effectivement, pour récupérer leur mobilier. On le rachète. Soit on leur verse directement de l'argent, soit en fait on verse à une association l'équivalent du rachat. Et ensuite, après, on revend sur notre plateforme.
Vous revendez, et c'est là aussi que c'est intéressant pour les entreprises qui viennent acheter, c'est qu'on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs que si on achetait du neuf. Est moitié prix.
Exactement. En fait, le mobilier neuf, c'est très cher, y compris sur des choses qui sont d'assez mauvaise qualité et d'un point de vue écologique assez désastreuse en termes de bois, etc. Et nous, ce qu'on propose, c'est du mobilier, parfois du mobilier de designer assez prestigieux et en moyenne à 50% du prix du neuf.
Fabrice Marcella, notre coach.
La question que je me posais, c'est comment vous faites connaître ? Quels sont les bons interlocuteurs dans l'entreprise ? C'est la direction des achats ? Ce sont les moyens généraux ? C'est la direction de la responsabilité sociale et environnementale ? Enfin, qui sont les bons interlocuteurs, sensibles en tout cas, à votre proposition ?
C'est les trois clés d'entrée que vous avez venez de dénoncer. Ce qu'on voit, c'est que beaucoup les services généraux, l'immobilier, pour tout ce qui est la gestion des meubles. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est les DRH. Parce que la pression sur cette transition écologique, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient vraiment des salariés, notamment des plus jeunes d'entre eux. Et il y a des demandes. Pourquoi est-ce qu'on a encore des gobelets en plastique ? Comment ça se fait qu'on va jeter tous les meubles quand on déménage ? C'est une vraie réalité dans les entreprises aujourd'hui.
Elisabeth ?
Vous récupérez les fournitures et le mobilier. À qui le vendez-vous après ?
Alors, on va le vendre à des entreprises en général plus petites, des start-up, beaucoup, qui quittent un espace de coworking et qui vont s'installer pour la première fois et qui sont intéressés par l'idée d'avoir du mobilier qui va être à la fois beaucoup moins cher et en plus, avec ce côté éco-responsable, c'est important pour elles aussi.
Vous avez 8 personnes aujourd'hui, c'est ça, qui travaillent avec
exactement.
Vous. Comment est-ce que vous voyez votre développement ? Parce que je crois savoir que pour l'instant, vous travaillez essentiellement avec des entreprises qui sont en région parisienne. Mais ce que vous faites, ce modèle-là, il est duplicable à peu près partout.
Absolument. Alors c'est le début encore, hein, donc on essaye déjà d'être très présent sur la région parisienne et de se faire connaître auprès de notamment de la cible start-up qui est très sensible. Et
il y a une centaine d'entreprises qui ont travaillé avec vous.
C'est
déjà.
Ça, exactement. Et l'idée, c'est ensuite, si ça marche comme on l'espère, d'aller ensuite de créer des centres logistiques dans les grandes métropoles françaises, de façon à pouvoir proposer le même service et la même qualité de mobilier un peu partout en France.
Fabrice Marcella.
Le mobilier que vous rachetez, vous le remettez en l'état, en vente, ou vous le...
Aujourd'hui,
vous
ce
le
qu'on
customisez.
Fait...
Voilà, vous le Alors, customisez, vous le nettoyez. Vous...
Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on le nettoie. Et on s'assure qu'il est vraiment de bonne qualité. On est en train de travailler sur des projets d'upcycling, c'est-à-dire prendre des bureaux qui sont en moins bon état et essayer de faire des nouveaux meubles avec ça. C'est encore un projet, on travaille dessus. Mais c'est ça l'idée, effectivement. C'est soit on peut revendre directement et on se contente de nettoyer, soit on répare, voire on upcycle pour créer des nouveaux meubles.
Et justement, dans cette veine-là, vous allez travailler ou vous envisagez de travailler avec des artisans?
Oui, c'est ça, avec des designers, avec des artisans. Je crois qu'il y a une envie aussi dans les entreprises aujourd'hui d'avoir des choses qui sont belles, sortir d'un mobilier qui est uniquement fonctionnel, mais d'avoir des pièces un peu design, etc. Et donc l'idée, c'est de prendre les bureaux. Il y a des bureaux qu'on récupère qui sont assez vieux, assez moches pour être honnête, et d'en faire des choses qui soient beaucoup plus des pièces de designer attractives.
Qu'est-ce qu'on vous dit quand on récupère ces meubles? Qu'est-ce que vous disent les jeunes start-up auxquelles vous livrez ces nouveaux meubles qui ont déjà servi? Ils veulent savoir d'où ça vient? Ils sont intéressés par l'histoire du mobilier ou finalement ils se le réapproprient tout de suite?
Alors, d'abord, ce qu'on nous dit, c'est que c'est vraiment moins cher. Donc ça, c'est une bonne chose.
Un gros avantage quand on démarre, notamment.
Exactement. Et puis après, c'est vrai qu'il y a l'intérêt de savoir un peu où ont été les meubles avant, à quelles entreprises ils ont servi, quelle est leur histoire. Je crois que cette Et envie aussi. De comprendre l'origine des produits, c'est quelque chose qui est de plus en plus généralisé aujourd'hui. Et c'est vrai aussi pour le mobilier de bureau, oui.
On reste ensemble et on continue à parler d'éthique. Justement, l'éthique, c'est important, Elisabeth, pour une entreprise aujourd'hui de plus en plus.
C'est devenu un enjeu majeur pour les entreprises parce que être une entreprise, comme on dit, éthique, d'abord, ça assoit la réputation de l'entreprise. Et à partir de cette réputation, eh bien, il en découle une confiance, hein, réputation et confiance. Et ça, ce sont de réels atouts dans l'image aussi de l'entreprise. Par l'éthique, l'entreprise va affirmer des valeurs qui vont orienter les comportements aussi à l'intérieur de l'entreprise. Ça va créer une sorte de cadre commun le besoin là se fait tout particulièrement ressentir, notamment dans les grandes organisations, les grandes entreprises qui ont besoin justement de ce cadre éthique.
On reste ensemble sur Europe 1 et nous sommes toujours ici au Salon des Entrepreneurs Porte Maillot à Paris.
Il est 13h17.
Europe 1.
Et si les entreprises avaient à leur disposition des outils pour s'engager de manière solidaire, eh bien vous allez voir que c'est ce que leur propose Winabi. A tout de suite.
La France Bouge continue en direct du Salon des Entrepreneurs à Paris au Palais des Congrès Porte Maillot. Et cet après-midi, on s'intéresse aux entreprises éthiques avec des innovations. Si vous souhaitez réagir, c'est simple, il y a Twitter, hashtag Europe 1. Vous pouvez aussi nous appeler au 3921, Raphaël.
Oui, effectivement. Et vous le savez, hein, Céline, on entend aujourd'hui de plus en plus parler dans les entreprises de RSE, d'économie sociale et solidaire, de développement durable. Mais entre la volonté affichée et les moyens pour le faire, il y a souvent un gouffre. Et surtout des équipes qui ne savent pas forcément par où saisir le problème. Bonjour Emmanuel Bentejac.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Winabi. Alors ça se dit Winabi, mais ça s'écrit W-E-N-A-B-I. Votre plateforme, vous en avez eu l'idée en 2017. C'est vrai que beaucoup de groupes ont envie de faire quelque chose de positif, mais ils ne savent pas forcément à quelle porte frapper. Vous les aidez.
Oui, c'est exactement ça. En fait, on permet de faire le pont entre des associations qui ont des besoins. Et elles sont nombreuses en France. Elles ont des besoins variés, tout type de besoins. Donc on leur donne un accès et de la visibilité auprès d'entreprises qui, elles, sont de plus en plus prêtes à s'engager et peuvent utiliser notre plateforme pour choisir des missions et proposer in fine à leurs collaborateurs de faire des missions concrètes, directes sur le terrain. Et là, on a un panel de missions très varié et très différent en fonction des entreprises et de la volonté des collaborateurs.
Comment est née l'idée? Comment est-ce que vous vous êtes dit qu'il faut absolument que ces deux mondes-là se rencontrent?
En fait, elle est venue de plusieurs, du fruit d'une réflexion un peu globale, mais elle est venue surtout d'un constat, c'est qu'autour de nous, nos amis, des personnes qu'on connaissait étaient prêtes à s'engager, mais se trouvaient toujours face à des obstacles pour l'engagement. C'est-à-dire que j'ai pas forcément le temps, je ne connais pas le monde associatif, j'ai plein de choses qui font que je vais pas y aller, pas passer le cap alors que j'en ai envie. Et en fait, on s'est rendu compte que via l'entreprise qui a tout intérêt à mobiliser ses collaborateurs, on pourra y revenir, ça répond à pas mal on enlève pas mal d'obstacles et notre plateforme est faite pour ça, c'est-à-dire permettre à tous de pouvoir agir et s'engager facilement.
Donc on aide à la fois les salariés qui ont des solutions qui leur sont proposées, on aide aussi l'entreprise sur son image, notamment RSE.
Oui, alors en fait, nous déjà, on aide l'entreprise comme vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire que quand elle s'est dit j'aimerais faire quelque chose, j'adhère avoir un impact positif, il faut encore le faire. Et donc quand on est un grand groupe et qu'on a des filiales partout dans le monde, qu'on a 30, 20, 30, 40, 50 000 collaborateurs, comment on les mobilise, comment on met ce programme-là en place? C'est compliqué, ça demande finalement un outil pour ça. Et nous, notre outil, il leur fait gagner du temps, de l'efficacité, pour in fine avoir toujours plus d'impact positif. Et c'est vraiment notre mission finale.
Fabrice Marcella, notre coach.
Comment sélectionnez-vous les associations et quelles sont les causes les plus porteuses?
Alors les associations, en fait, il y a deux moyens, en tout cas, pour lesquels, enfin, deux façons pour elles d'arriver sur la plateforme. La première, c'est quand nous, on les source. Donc là, on les audite, entre guillemets. On en vérifie qu'elles existent bien, qu'elles sont bien apolitiques, qu'elles sont d'intérêt général, d'utilité publique. Donc ça, c'est notre travail à nous de tiers de confiance pour les associations.
Pour les entreprises aussi, oui.
Pour apporter aux entreprises cette garantie-là, en tout cas, de l'association. Et puis, de l'autre côté, les entreprises, elles, ont des partenaires associatifs depuis de nombreuses années. Elles travaillent avec ces partenaires. Mais l'organisation avec elles, parfois, méritait d'être simplifiée. Et c'est là aussi on agit. Donc, on a à la fois les associations qui viennent de nos entreprises partenaires et celles qu'on source nous-mêmes.
Justement, il y a plusieurs types d'opérations qui peuvent être menées avec les salariés, hein, que ce soit le petit coup de pouce, que ce soit une mission de plus longue durée. Vous avez des exemples à nous donner?
Oui, bien sûr. En fait, c'est vraiment la variété, nous, qui nous intéresse, parce qu'elle est riche et tous les collaborateurs...
Et que chacun va pouvoir trouver ce qu'il recherche.
Ce qu'il est prêt à faire, effectivement. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut proposer. Donc, il y a des missions de coup de pouce qui ont lieu tous les jours, des distributions de repas, des maraudes, où des collaborateurs vont, parfois avec des collègues, parfois avec des collaborateurs d'autres entreprises. Et donc ça, c'est ouvert à tous, c'est tous les jours, il y en a plusieurs fois par jour, c'est facile. Puis on a des missions de compétences qui sont, entre guillemets, plus engageantes, où le collaborateur qui est spécialiste en stratégie digitale, en RH, en comptabilité, va aller accompagner une association et faire profiter de sa compétence pour donc une association qui va agir derrière pour l'intérêt général. Et pour lui, c'est très valorisant de partager ça.
Et c'est vous qui choisissez les associations?
Alors nous, on a un portefeuille d'associations et c'est ensuite l'entreprise qui va définir les associations qu'elle va offrir, entre guillemets, en choix à ses collaborateurs.
Justement, l'intérêt pour l'entreprise, quel est-il? Qu'est-ce qu'il en retire comme bénéfice, si j'ose dire, des salariés plus épanouis, qui se sentent mieux dans leur propre entreprise?
Oui, en fait, il y a des avantages RH directs qui sont assez forts. Effectivement, nous, les retours qu'on a des collaborateurs qui font des missions sont toujours extrêmement positifs. C'est-à-dire que le collaborateur s'est senti utile.
Ça change l'image de l'entreprise dans laquelle il travaille.
Oui, la fierté d'appartenance est importante. Il a une vision de son entreprise qui lui permet, en fait, de s'engager, d'agir. Il se sent, valorisé dans son action. Et donc, du coup, il renforce ça. Et c'est la marque employeur, mais pas que. Pour l'entreprise, ça peut être aussi créer du lien avec les acteurs du territoire. Pour aussi son image globale. Donc, il y a beaucoup d'intérêt pour l'entreprise.
Et ça se fait en dehors du temps de travail ou sur le temps de travail?
Alors, nous, on pousse évidemment que ça soit fait sur le temps de travail. Et c'est ce qu'on appelle le mécénat de compétences, que les entreprises mettent en place de plus en plus. Mais on laisse aussi la possibilité aux collaborateurs d'agir en dehors de son temps de travail. C'est-à-dire qu'on lui a donné l'information. Parfois, il s'est engagé via son entreprise, mais après, il continue avec l'association. On a pas mal d'exemples comme ça, où le collaborateur continue sur son temps libre à s'engager avec l'association.
Elisabeth, l'éthique intervient dans des entreprises en pleine transformation, on s'en rend compte.
Oui, le développement de l'éthique au sein de l'entreprise, ça intervient dans un contexte où les organisations sont exposées de plus en plus aux risques, aux fameux risques psychosociaux qui entraînent aussi le fameux burn-out, ça peut être du surmenage. Et donc, cette notion d'éthique intervient de plus en plus au sein des entreprises.
Moi, je voudrais savoir aujourd'hui quel développement vous pouvez avoir, parce que vous êtes déjà une quinzaine dans l'entreprise, vous êtes à Paris, vous travaillez avec des entreprises en Île-de-France ou vous avez commencé à SME?
Alors, on a commencé à SME. En fait, dès le début, notre premier client, nous, ça a été Unibail Rodamco Westfield. Et on a tout de suite été déployé dans 15 pays via les filiales, en fait, du groupe. Donc, dans chaque pays, il y a des actions qui sont réalisées. Aujourd'hui, on est dans une trentaine de pays où, localement, il y a des actions qui se font. Donc, ça nous donne, nous, des perspectives intéressantes pour l'avenir et surtout des exemples de missions assez intéressants à travers le monde. notre cœur d'activité est en Île-de-France, mais du coup, on a aujourd'hui des actions partout dans le territoire et donc dans plusieurs pays.
Avec, vous dites, 25 000 utilisateurs actifs
qui sont aujourd'hui sur la plateforme. Mais en fait, c'est un combat quotidien, c'est de faire mieux, parce que le potentiel d'utilisateurs chez nos clients grands groupes, c'est à peu près 1 million aujourd'hui. Donc, on se rend compte de l'impact que ça peut avoir, c'est énorme. Donc, tout l'enjeu, c'est d'attirer le plus de collaborateurs sur la plateforme.
Fabrice ?
Ma traditionnelle question, c'est quoi le modèle économique ?
Alors, notre modèle économique...
Combien ?
Ça coûte combien ? Alors, ça dépend de la taille de l'entreprise. Nous, on est gratuit pour les associations et les ONG qui poussent leurs besoins. Et pour l'entreprise, c'est en fonction du périmètre. Donc, on a un forfait en fonction du nombre d'employés. Si on est ouvert à pas mal de petites startups également qui se lancent. Si vous avez 300, 200 collaborateurs, vous payez pour 200 collaborateurs. Et si vous êtes 30 000, 40 000, le périmètre, c'est l'abonnement qui est lié à ça.
On reste ensemble et on continue à parler éthique aujourd'hui sur Europe 1, ici au Salon des Entrepreneurs.
Il est 13h27.
Europe 1.
Et si l'éthique se développait aussi en dehors de l'entreprise, partout dans la rue, on va parler mobilier urbain. Et vous allez voir que oui, c'est possible. A tout de suite sur Europe 1.
La France Bouge est en direct du Salon des Entrepreneurs Porte-Maillot cet après-midi pour parler des innovations dans les entreprises éthiques. Si vous souhaitez réagir, c'est très simple. Vous nous écrivez via Twitter, hashtag Europe 1. Vous pouvez également nous appeler au 3921, Raphaël.
Oui, et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui veulent rendre les autres plus éthiques, des entreprises éthiques qui travaillent aussi pour nous, hein, pour le grand public. Et c'est votre cas chez Cinelux. Bonjour Ange-Frédéric Balma.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur de cette entreprise qui, elle, commercialise du mobilier urbain connecté à partir de matériaux recyclés. Si on a eu envie de vous avoir avec nous, c'est parce que votre histoire, elle est intéressante. Vous avez commencé à l'étranger, en Afrique, où vous avez créé une agence de voyage au départ. Fait. Et alors, en 2014, j'ai envie de dire que l'ingénieur télécom qui sommeille en vous se réveille et se dit « je vais essayer d'aller apporter en milieu rural l'Internet grâce à l'IFILED ». C'est ce que vous créez en tout premier.
En tout premier, oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe après ?
Alors, l'IFILED, quand on l'a créé au départ, c'était pour répondre à des problématiques majeures en Afrique. L'accès à l'énergie, l'accès à la connectivité et l'accès au contenu pédagogique pour apporter à la fois de l'information, du contenu éducatif et du contenu agricole au monde rural. Fort de cette expérience, puisqu'aujourd'hui on est présent sur 5 pays africains avec une croissance de plus de 300%, on a été repéré par Business France qui dit « Vous avez une belle technologie qui pourrait permettre justement aux pays développés de pouvoir non seulement faire leur transition énergétique, mais aussi réutiliser les matériaux existants pour les transformer justement en mobilier connecté et répondre à des besoins en termes de villes durables, en termes également de smart cities, pour avoir des cas concrets d'accompagnement de solutions que le grand public pourrait utiliser.
C'est comme ça que vous rentrez en France, et que vous appliquez finalement la méthode Au pays,
avec Cinelux, justement, qui est basé à Aix-en-Provence pour pouvoir apporter à la fois des solutions de connectivité en zone blanche, dans un premier temps. Ensuite, apporter des solutions au mobilier telles que les abribus, telles que les mâts, les poteaux d'éclairage public, pour les intégrer de solutions films photovoltaïques, permettre d'alimenter des ampoules d'éclairage LED et d'ouvrir une bande passante avec la technologie LiFi que nous avons développée également, qui envoie de l'information, de l'Internet et du contenu aux utilisateurs.
Vous avez créé 5 mobiliers urbains connectés aujourd'hui.
Tout à fait.
Alors, ils sont où ? Ils sont à Nice,
à Aix-en-Provence, à Marseille aussi.
Cette question éthique, elle est forcément là quand on crée Cinelux ?
Oui.
Pourquoi ? C'était une évidence ?
C'était une évidence parce que pour nous, il fallait partir de l'existant pour l'améliorer et apporter des solutions nouvelles, des cas d'usage qui permettraient justement aux populations d'interagir avec ces mobiliers qui font partie de nos vies, mais qui étaient muets. Maintenant, on donne la possibilité à ce mobilier urbain de pouvoir nous connecter, nous interconnecter entre nous, de pouvoir échanger et d'apporter du contenu éducatif, du contenu à titre d'information aux populations en temps réel.
Notre coach, Fabrice Marcella.
Moi, je vous ai croisé Je vous ai croisé au CES de Las Vegas, qui est le Consumer Electronics Show, qui est l'innovation mondiale portée notamment par les startups. Et il y avait peu de startups green. Et ce que je voulais savoir, c'est qu'en avez-vous tiré ? Est-ce que vous avez pu trouver des contacts, des clients, des investisseurs ? Enfin, comment ont-ils réagi sur place ?
Énormément de contacts. Ça a été une belle surprise pour eux, contrairement à tous ces robots qui faisaient partie du salon et du CES. Ça nous a permis également de signer avec le Brésil, l'Amérique latine, avec l'Asie également, parce qu'on ne se rend pas compte, le phénomène est quand même mondial. Tout le monde aujourd'hui veut utiliser la technologie, mais en utilisant des technologies propres, des technologies saines pour pouvoir envoyer à la fois des informations, mais aussi en recevoir. Et des investisseurs, aujourd'hui, on en a à la porte. Donc, on est en pleine discussion, en plein deal avec ces investisseurs pour arriver à de l'investissement et à des prises de participation au sein de notre entreprise.
Justement, vous en êtes où aujourd'hui en termes de développement? Parce que vous avez les marchés, manifestement. Vous nous parlez du Brésil. La France s'est déjà fait. L'Afrique également. Vous avez besoin de faire une levée de fonds? Si oui, de combien? Et pour faire quoi? Pour industrialiser, par exemple?
Tout à fait. Et étant donné que la solution, elle est prête aujourd'hui pour attaquer le marché mondial, dirais-je, donc on a besoin de lever 5 millions d'euros aujourd'hui pour la phase industrialisation de la solution.
Je vois Fabrice qui note le chiffre.
Pour apporter des solutions à la fois sur l'environnement, puisque aujourd'hui nos candélabres sont capables de remonter des informations, à savoir la qualité de l'air, le taux de CO2 et le taux de particules fines quand on les installe dans une zone, dans une rue ou dans une ville. Et pour nous, il est essentiel aujourd'hui de pouvoir passer sur cette phase d'industrialisation en implantant l'usine en France avec une usine du futur qui permettrait aujourd'hui de pouvoir déployer les solutions à l'international.
Parce que l'idée, c'est d'implanter cette usine du côté d'Aix-en-Provence, là où vous êtes déjà. Moi, j'ai une question. Je voudrais savoir, quand j'entends effectivement parler d'éthique en entreprise et à l'extérieur, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des connexions à établir ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous faites à l'extérieur, en mobilier urbain, on ne peut pas le faire aussi dans les entreprises, dans les bureaux ?
Et bien sûr, puisque notre modèle s'adresse à la fois aux entreprises, aux États et aux particuliers. Il est bien évidemment sur cette voie-là qu'avec les entreprises, avec les États, avec les villes, avec les collectivités, on développe ensemble une solution commune pour adresser l'ensemble de ces marchés.
Elisabeth, les entreprises éthiques, et on le voit là, ne sont plus du tout confidentielles.
Mais non, parce que qui dit entreprise éthique dit aussi entreprise de l'économie sociale et solidaire. Hein. Elles sont liées. Hein. Et donc, c'est devenu un mode d'activité à part entière qui prend sa place dans le paysage économique. Hein. D'après le ministère de l'économie, ces entreprises de l'économie sociale et solidaire, eh bien, elles représentent tout de même 10% du PIB, près de 12,7% des emplois privés en France. Et donc, ces entreprises éthiques ne se limitent plus aux activités associatives ou de petites dimensions. Le point commun, eh bien, c'est que ces acteurs ont tous un projet social à travers leurs activités. On le voit à travers chacun de vos exemples. Elles ont aussi un projet social à travers les personnes qu'elles emploient, à travers leurs clients ou à travers tout bénéficiaire de leur système d'organisation. Et donc, ces entreprises ouvrent des voies nouvelles parce qu'elles cherchent à produire, à consommer et à décider autrement.
Vous parliez du prototype de lampadaire connecté. J'imagine que vous avez dans les cartons d'ores et déjà d'autres projets
effectivement,
du même type,
du même acabit. Oui, du même acabit. Pour accompagner justement les particuliers aussi à pouvoir réduire la consommation liée à l'éclairage, puisque en utilisant les LED intégrés de notre technologie, on permet de réduire les ondes électromagnétiques à la fois à la maison, mais aussi à l'extérieur, sachant aujourd'hui l'impact des ondes électromagnétiques sur notre santé et l'environnement. Donc pour nous, il est question rapidement de sortir tous ces produits-là et les mettre à la disposition du grand public.
On reste ensemble et on va, je l'espère, prendre des questions ici au Salon des entrepreneurs Porte Maillot.
Il est 13h36.
Europe 1.
Et on vous attend, 3921 Twitter, ou alors on va faire circuler un micro dans le public ici qui est avec nous au Salon des entrepreneurs 27e édition.
La France. France Bouge est en direct du Salon des Entrepreneurs Porte Maillot à Paris cet après-midi pour parler des entreprises éthiques et de leurs innovations et vous en parler, Raphaël, avec vos invités.
Nous sommes avec Maxime Baffert, fondateur de Bloodigo, une plateforme de vente de fournitures et de mobilier co-responsable pour les entreprises. Emmanuel Bintejac, co-fondateur de Winabi, plateforme qui permet aux entreprises de s'engager de manière solidaire. Et Ange-Frédéric Balma, président fondateur de Cinelux, entreprise qui commercialise du mobilier urbain connecté à partir de matériaux recyclés. Notre coach, c'est Fabrice Marcella, dirigeant du village Baïssé à Paris. Bien sûr, à mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayagela. Et je crois que nous avons une question pour vous, messieurs, dans le public, ici, depuis la Porte Maillot. Bonjour, madame.
Bonjour, je suis
Quel
Marie.
Est votre prénom ?
Marie.
Enchantée, Marie.
J'ai une question pour Ange. Vous ambitionnez de lever 5 millions d'euros pour vous développer à l'international. Et j'aimerais connaître votre stratégie, justement, de développement à l'international.
Alors, on va s'appuyer essentiellement sur Business France, puisqu'on a déjà démarré avec l'Amérique latine, mais aussi avec l'Inde, puisqu'on a fait partie de Business India Tour en 2019 pour découvrir le marché indien, qui représente énormément de potentiel en termes de développement de notre solution. Donc, on part sur la France Export en nous exportant avec les outils et les mécanismes existants pour pouvoir commercialiser, surtout en Afrique, ces solutions-là qui permettraient d'apporter à la fois des solutions énergétiques, de connectivité, d'accès à des contenus, mais aussi intégrer ces villes et ces pays dans le développement durable en axant leur communication et leurs utilisations sur des énergies renouvelables. Donc c'est essentiellement sur les outils que la France nous met à disposition avec France Export, Business France International pour pouvoir également avec des VIE aussi avec qui on a commencé à travailler sur l'Afrique du Sud. Donc on a des outils déjà mis à notre disposition pour développer, créer des filiales à l'étranger pour permettre à ce que notre activité et nos solutions soient dupliquées dans l'ensemble des pays et des continents où besoin il y a.
Fabrice Marcella.
Je vais peut-être continuer avec vous, Ange, juste sur... Vous parlez de mobilier connecté, vous parlez de LiFi. Pour moi, c'est très technique. C'est quoi le LiFi ? En quoi c'est différent du Wi-Fi ? Et c'est connecté, ça sert à qui ? Enfin,
D'accord.
Vous pouvez nous expliquer un peu le LiFi, c'est quoi ?
C'est du Wi-Fi par la lumière, mais sans des ondes électromagnétiques. Le LiFi utilise le spectre lumineux, tel que les lumières que nous avons sur le salon, pour envoyer de l'information à l'utilisateur.
Et ça marche sur mon téléphone, là, déjà ?
Sur les téléphones aujourd'hui, puisque nous, on a développé une application qui permet à ce que l'application déverrouille la caméra de votre téléphone et de recevoir le flux descendant et la remontée d'informations se fait soit en Bluetooth, en infrarouge, pour réduire l'utilisation des ondes électromagnétique. Et la vitesse aujourd'hui du LiFi, on est autour de 100 fois plus rapide que le Wi-Fi. Donc, ce qui permettrait aux utilisateurs d'être plus confortables dans le streaming, dans l'échange d'informations, dans les données, la sécurisation des données à la fois dans les entreprises et au niveau des échanges militaires. Donc, on est sur plusieurs axes avec cette technologie-là, mais nous, plus axé sur le grand public en termes d'utilisation et d'impact sur la réduction à la fois de la partie énergétique.
Il est passionné. Aussi... Hein.
Oui.
Emmanuel et Maxime, je voudrais savoir au niveau du développement à l'international. Alors on a vu que vous étiez déjà présent, Emmanuel. Maxime, vous voyez les choses comment ? Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut aller faire ailleurs, qu'on peut exporter comme modèle ? Est-ce qu'il y a des pays qui le font déjà ?
Alors, je crois que cette thématique autour de l'économie circulaire, elle est extrêmement importante et c'est toute notre économie qui doit se transformer et réfléchir. C'est quoi la première, la deuxième, la troisième vie des produits et en particulier du mobilier de bureau que propose Bloodigo. Nous, notre ambition, une fois qu'on aura suffisamment grandi en France, c'est évidemment d'aller tester les marchés à l'international. Oui.
Sur les marchés à l'international, vous êtes déjà présent du coup avec Winabi. Quelle est l'ambition ?
En fait, nous, on est essentiellement présents via les filiales de nos entreprises françaises, même si là, on a récemment un contrat avec une entreprise italienne, mais sinon, généralement, c'est ça. Donc, il y a encore énormément de chemin à faire. Nous, notre ambition, c'est surtout de multiplier notre impact. Donc, on sait que plus on met de missions en place, ça fait un peu partie de notre modèle. Nous, notre modèle, on n'est pas forcément dans la croissance pour la croissance, mais plus on a de missions qui se réalisent, plus on a d'impact, plus, en fait, on a l'impression d'être utile et de servir. Donc, c'est ça qui est la base de notre modèle et c'est pour ça qu'on essaye de le répandre. Donc, l'ambition, c'est d'en avoir le plus possible. Je pense que d'ici un an ou deux, de commencer à aller sur plusieurs des pays ciblés et puis au fur et à mesure de voir un peu comment on se déploie.
Elisabeth ?
Oui, Emmanuel, vous permettez aux entreprises de s'engager de manière solidaire. Est-ce que ça peut passer, vous parliez tout à l'heure des maraudes, est-ce que ça peut passer aussi, je ne sais pas moi, par des team building, par toutes sortes d'idées pour pouvoir s'engager ? Est-ce que vous ne pouvez pas rechercher le prétexte pour s'engager finalement ?
Si, mais alors, et c'est notamment intéressant lorsqu'on ouvre à l'international, c'est qu'on voit que l'engagement, il va être très différent d'un pays à un autre, d'une région, en fonction de ce que les collaborateurs veulent faire.
Vous avez des exemples d'un pays à un autre, justement, ce qu'on recherche?
Non, mais on voit, par exemple, qu'aux États-Unis, il y a cette culture du team building solidaire où ils vont aller ensemble, nettoyer des plages, faire des actions comme ça, communes, ça existe depuis longtemps, et c'est ancré. Donc, dès que la plateforme a été ouverte dans des filiales, des programmes s'organisaient où les collaborateurs vont à 50, 100 sur des missions, et ça se fait naturellement depuis longtemps.
Ce qui n'est pas le cas forcément en France.
Ce qui commence à être le cas en France. Mais nous, ce qu'on veut, c'est proposer à chacun de le faire. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde et laisser de la créativité aussi dans l'engagement. Et parfois, il y a des initiatives qui viennent des collaborateurs qui sont vraiment super.
Fabrice Marcella.
Je rebondis justement sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'un collaborateur d'une entreprise peut être le prescripteur d'une association pour pouvoir la référencer, en tout cas, sur la plateforme de Wannabe?
Oui, bien sûr. Il y a déjà pas mal d'entreprises qui valorisent l'engagement de leurs collaborateurs. Donc, parfois, un collaborateur engagé va défendre son association, en tout cas la présenter. Elle va parfois être financée directement par l'association avec un petit coup de pouce financier de l'entreprise. Pardon. Mais oui, on permet ça, évidemment, que les collaborateurs poussent des associations. Et après, c'est toujours l'entreprise qui choisit, in fine, de l'ouvrir à tous ou pas.
Maxime Baffert, vous auriez imaginé faire la même chose il y a ne serait-ce que 10 ans ?
Ah non, absolument pas.
Non. Hein. On n'était pas prêts en France.
Alors, je crois que ça fait quand même longtemps qu'on alerte sur les problèmes environnementaux. Mais c'est vrai que moi, j'ai fait partie pendant des années de ces gens qui écoutaient les messages et puis qui ne les appliquaient absolument pas. Et le gros déclencheur pour moi, comme pour beaucoup de personnes, c'était la naissance de mon fils, il y a 2 ans, où je me suis dit, finalement, ça vaudrait le coup de réfléchir à la planète que tu vas lui laisser. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressé. Et le deuxième point, en fait, c'est qu'il y a cette dimension écologique, mais il y a aussi cette dimension de gaspillage. En fait, on se rend compte qu'on est dans un système aujourd'hui où on gaspille énormément à beaucoup de niveaux. Et ça vaut le coup de réfléchir sur comment est-ce qu'on fait pour moins gaspiller et mieux utiliser les ressources.
Oui, et je voudrais qu'on termine, Elisabeth, en précisant aux auditeurs d'Europe 1 et à ceux qui nous écoutent ici au Salon des Entrepreneurs qu'il existe un service qui permet de noter, par exemple, les responsabilités sociales, fiscales ou environnementales des entreprises.
Oui, ça s'appelle le Moral Score. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça a été lancé début 2019 et c'est un site qui propose de classer les grandes entreprises selon des critères, notamment des critères environnementaux, sociaux et fiscaux. Ce sont selon nos propres critères éthiques. Par exemple, qui paye ses impôts en France, qui rémunère correctement ses salariés, qui respecte l'environnement, des questions auxquelles le site moralscore.org essaye de répondre en classant les grandes entreprises selon environ une quarantaine de critères. C'est une sorte de Yuka des entreprises. Et là, justement, ce matin, je regardais, ils ont tweeté que, par exemple, les commerçants U figurent dans le classement éthique des supermarchés ou Sensi dans le classement éthique des opticiens. Ou encore Big Fernand dans la chaîne des burgers. Voilà, ce sont nous. Voilà, on collabore pour noter les entreprises éthiques.
Merci à tous les trois d'être venus nous prouver qu'on peut le faire, qu'on peut être éthique et qu'on a tous les moyens d'y participer à notre petit ou à notre grand niveau. Merci d'avoir été avec nous en direct du Salon des Entrepreneurs sur Europe 1.
Il est 13h47.
Europe 1.
Restez avec nous, on va découvrir d'ici quelques minutes l'histoire d'une entreprise qui a décollé en un peu plus de 5 ans. C'est Celency et c'est l'entreprise qui va bien. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est là, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, eh bien, c'est Celency. Bonjour Charlotte Cadet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ici au Salon des Entrepreneurs. Vous êtes la fondatrice de ce qui est devenu, on va le dire, aujourd'hui une référence pour acheter ou vendre du mobilier de déco de seconde main. Racontez-moi comment, en 2014, vous vient l'idée. Vous avez, je crois, toujours été passionnée de déco.
C'est ça. Oui, c'est vraiment la passion qui m'a poussée à entreprendre. Donc comment est venue l'idée? Simplement parce que je perdais beaucoup de temps à chiner, dénicher des pièces, des pièces de seconde main, des jolies pièces de seconde main au bon prix, en cherchant dans des brocantes ou déjà sur les sites de petites annonces, Le Bon Coin, eBay, etc.
Oui, parce que mon petit doigt m'a dit que vous avez travaillé chez deux antiquaires. Vous avez toujours, depuis toute petite, finalement, été habituée à aller dans les brocantes.
Oui, alors, je ne viens pas du métier, mes parents ne sont pas de l'univers non plus, mais disons que cette passion de la déco m'a été transmise par ma mère, effectivement, et j'ai pu, de près ou de loin, côtoyer l'univers, jamais à titre professionnel, mais plutôt plutôt pour un loisir, quoi.
Et est-ce qu'il y a un meuble en particulier qui vous a marqué ?
Disons qu'il y a une pièce, un matériau plutôt qui me parle beaucoup, qui est le rotin, qui est un matériau qui m'a toujours un peu suivi, que j'ai toujours vu partout, qu'on trouve à la fois sur du mobilier mais aussi sur des objets de décoration, qui est à la fois très robuste et qu'on peut retrouver dans des intérieurs comme dans des extérieurs, et que je trouve assez fascinant du coup par sa durabilité mais aussi son côté très chaud, très chaleureux. Et ça m'a marqué parce que je l'ai pas mal côtoyé effectivement quand je travaillais avec des antiquaires il y a quelques années.
Oui, qui vous ont donné des produits pour justement le remettre au goût du jour.
Exactement.
Alors qu'est-ce qui se passe ? Donc vous vous lancez et vous créez Celency, vous avez fait une école de commerce. À quel moment vous vous dites ma passion, je peux la combiner avec une vie entrepreneuriale ?
Alors, je pense que l'idée est venue au départ vraiment en cette. L'objectif était d'apporter une réponse à mon besoin personnel. Et la deuxième étape, une fois que j'avais identifié ce besoin, c'était de se dire, est-ce que vraiment il y a un marché ? Est-ce qu'il y a une opportunité ? Est-ce qu'il y a un business à créer ? Donc, avant de quitter mon job et de me lancer dans cette aventure, je me suis vraiment concentrée sur l'élaboration d'un business plan, d'un modèle économique viable pour lancer et amorcer l'entreprise.
Oui, il fallait démocratiser finalement l'accès à ce qui peut paraître à pas mal de monde, hein, le monde des antiquaires, un peu cher, pas forcément pour toutes les bourses.
Exactement. Exactement. L'objectif, c'est vraiment de démocratiser l'accès à la brocante, de montrer que ce n'est pas un univers réservé aux personnes aguerries, très averties sur le sujet, mais au contraire que ça, c'est ultra accessible. On parle là de la seconde main, que c'est pas forcément poussiéreux, mais au contraire, c'est même d'ailleurs très moderne. Finalement, on parle là d'un nouveau modèle de consommation et acheter de la seconde main plutôt que d'acheter du neuf. Je pense qu'on est vraiment dans les problématiques et enjeux du moment.
Donc vous allez chercher les vendeurs et vous les mettez en rapport avec ceux qui vont acheter ?
Exactement. Nous, notre métier, c'est pas de chiner directement les produits, c'est vraiment de démarcher des vendeurs qui sont soit des professionnels ou des particuliers et de les inciter à rejoindre le site pour qu'ils puissent ensuite vendre leurs produits sur notre plateforme.
Fabrice Marcella, on est vraiment dans la nouvelle économie.
Et oui, et la question que je me posais, c'est est-ce que les usages changent ? C'est-à-dire que la brocante dans un lieu physique, j'imagine qu'il y a plein de trucs et astuces, en tout cas pour bien chiner. Est-ce que lorsqu'on le fait en ligne, il y a d'autres usages, d'autres conseils, en tout cas, que vous pourriez donner à vos utilisateurs, à vos clients ?
Je pense effectivement que l'usage change quand on chine en ligne, puisqu'on est dans une démarche vraiment d'achat de mobilier et de décoration. On n'est plus là pour flâner dans une brocante et au petit bonheur la chance tomber sur un objet qui va nous séduire, mais vraiment pour aller dans une démarche un peu plus efficace, un peu plus efficiente, où je réponds à un besoin. Donc je recherche un meuble, un objet, etc., qui va correspondre à mes caractéristiques et à mon budget. Et donc je vais pouvoir aller directement à la recherche, droit au but, en filtrant, en utilisant effectivement ce qu'on peut retrouver sur des sites e-commerce assez classiques finalement. Et je pense que cette démarche-là, effectivement, elle change. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la notion plaisir aussi de l'achat sur Celency, bien au contraire. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il y a cette notion d'efficacité qui est assez différente.
Je le disais, c'est allé très vite parce que ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que vous vous êtes lancé. Vous avez 50 collaborateurs aujourd'hui. Vous avez fait 20% de votre chiffre à l'international. Ça veut dire que Celency, aujourd'hui, s'exporte aussi.
Celency s'exporte, absolument. On est capable d'envoyer des meubles un peu partout dans le monde. On travaille beaucoup avec les pays européens et principalement les pays du nord de l'Europe, à la fois en sourcing, c'est-à-dire qu'on a des vendeurs qui référencent leurs produits sur la plateforme et qui viennent de tous horizons, et notamment des Pays-Bas, Belgique. Une fois de plus, les pays du nord de l'Europe sont très représentés. Mais aussi à l'achat, où on a des acheteurs qui viennent de partout et qui sont très intéressés par cet art de vivre à la française. Je pense la sélection que l'on opère aussi. Et puis tout simplement par aussi ces enjeux de consommation éthique responsable.
Quelle est l'ambition, justement, aller encore plus loin à l'international aujourd'hui, Celency ?
Oui, ça fait partie des projets, effectivement. Aujourd'hui, comme vous le disiez, donc 20% de notre business est porté par l'international déjà. Et pourtant, c'est vraiment une croissance organique de l'Inter, portée par des prescripteurs, des décorateurs, des architectes qui découvrent le site et le font sans doute connaître à leurs clients aussi. Donc demain, l'enjeu, c'est effectivement d'accélérer un petit peu plus et d'investir, de mettre en place du marketing maintenant pour accélérer notre croissance sur ces pays.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à changer de nom ? Parce qu'au départ, ça ne s'appelait pas Celency, ça s'appelait
Brocante Lab. Absolument. On a changé de nom pour deux raisons. Alors effectivement, cette première raison du développement international, dont on savait qu'il allait arriver assez rapidement. Et puis la deuxième problématique, c'était notre positionnement. Ce qu'on voulait réaffirmer, c'est on est quelque part une brocante en ligne, mais on voulait réaffirmer notre ADN de sélection, de qualité, qui est vraiment propre à Selency, et ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la racine de ce nom, qui est le nôtre aujourd'hui.
Fabrice ?
Oui, justement, comment vous sélectionnez les produits ?
Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui c'est un travail parfaitement manuel et vraiment réalisé par une équipe. Donc on a nos critères de sélection qu'on a édités et qu'on continue d'éditer depuis 5 ans.
D'ailleurs vous triez.
Et on trie absolument, tout le catalogue est trié, tous les produits ne sont pas acceptés. Et c'est là la principale différence, je dirais, avant même tous les services qu'on peut proposer avec les sites de petites annonces que vous pouvez connaître par ailleurs. Donc ouais, tout est fait à la main, mais on arrive à... L'enjeu était aussi de prouver la scalabilité de ce modèle et de la sélection.
Mais vous ne voyez pas tous les objets, d'accord, la
sélection. On ne les voit pas physiquement, ça se fait en ligne, sur photo. Aujourd'hui, on reçoit un peu plus de 1500 nouveaux objets chaque jour. Et on est capable de trier et de présenter toutes ces nouveautés sur notre catalogue.
15 millions de ventes en 2019, c'est ça ?
Alors en volume de vente, oui, absolument.
3000 vendeurs et 30 000 vendeurs particuliers.
Et 30 000 vendeurs particuliers, voilà, un chiffre qui est en pleine croissance, puisqu'aujourd'hui, notre enjeu, au-delà de l'international, c'est surtout de, comme je le disais, de continuer à démocratiser cet accès à la brocante, et notamment par les vendeurs aussi. Donc les vendeurs particuliers ont accès à Selency et peuvent vendre leurs pièces sur notre site en faisant appel justement à tous les services que l'on propose, la livraison, la sélection, le paiement sécurisé, etc.
Puisque vous parlez de livraison, il y a aussi un partenariat avec Cocoli pour une livraison plus verte. Ça, c'est important pour vous ?
Oui, c'est important. On travaille en fait avec pas mal de transporteurs différents, et notre enjeu est d'être green dans l'intégralité de notre démarche. Donc on vend des produits de seconde main qui sont responsables, et l'idée c'est aussi de s'associer à des partenaires responsables.
Selency, c'est l'entreprise qui va bien. Merci Charlotte Cadet d'être venue nous en parler ici au Salon des Entrepreneurs. Merci à Fabrice Marcella qui était notre coach aujourd'hui. Elisabeth, on se donne nous rendez-vous demain ici, puisque nous parlerons santé ici même dans le studio délocalisé Porte Maillot. Je remercie Laetitia Farine qui a préparé cette émission, David Vigerie, Alexis Geoffroy, Fabien Duchesne et Nicolas Charpentier qui est de l'autre côté à Paris dans les studios. On vous dit à très vite, midi, demain.
Et à demain, Rappel du chemin, on va retrouver Christophe Ondelat qui nous raconte aujourd'hui l'histoire de Jean-Luc Reichmann. Inspiré de son livre « T'as une tache pistache », c'est dans un instant sur Europe 1.